Guinée orientale. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, effectivement, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Dans la programmation du budget des actions du gouvernement 2016, il est prévu 15,29% pour l'ensemble des secteurs de l'enseignement général. Pour le groupe thématique droits de l'homme du centre Carter, ce montant destiné à l'enseignement reste largement inférieur à la moyenne de 20% constatée dans les pays d'Afrique subsaharienne ayant introduit la gratuité de l'enseignement. Le même groupe thématique fustige la justification du gouvernement qui soutient que le secteur de l'enseignement est improductif, raison qui explique le faible taux de cette part allouée. Certains observateurs estiment que les frais liés à des diverses activités scolaires imposées aux parents devraient être mobilisés comme de recettes publiques. Quel est votre avis? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Héritier Sidiakala. Julie Pesa assure le standard et la réalisation. Pierrot et la Meiji devant ses micros pour la présentation sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Le financement du secteur de l'éducation en RDC au centre de notre échange est 15,29%. C'est les budgets alloués pour les budgets 2016, les pourcentages alloués dans le budget de l'État 2016. Mais rappelons quand même que les dépenses publiques totales dédiées à l'éducation ont très nettement augmenté, passant de 9% du budget de l'État en 2010 à 16% en 2013. Au cours de la conférence des reconstitutions des ressources de l'éducation de juin 2014, le gouvernement s'était engagé à porter la part du PIB affectée à l'éducation à 4,5% et allouer au moins 18% du financement national du secteur. Rappelons que sur le site du ministère de l'enseignement primaire et éducation à la citoyenneté, on indique que près de 90% de ces budgets est consacré bien sûr aux rémunérations, ce qui ne permet pas de pouvoir faire face aux nombreux défis qui relèvent de ce secteur de l'enseignement général. Plusieurs personnes estiment qu'aujourd'hui, au niveau de conventions entre les écoles, les comités des parents, plusieurs frais sont exigés. Ainsi, nombreux d'autres frais pouvaient être collectés comme des fonds publics. Ça pouvait pallier aux besoins du financement du secteur de l'éducation. Quel est votre avis? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Maître Trésor Likonza, qui nous a écrit ici à Kinshasa sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, estime que la prévision de 15,29% est insignifiante. Toutefois, l'obligation n'est pas seulement de réaménager le budget, mais surtout de l'exécuter de bonne foi. Quant à dire que les secteurs de l'enseignement ne produisent pas, ceux qui ont dit ceci, alors ils doivent se rappeler qu'il y a beaucoup de frais qui sont exigés aujourd'hui aux parents et peuvent être érigés en recettes publiques, ce qui veut dire que ça peut être une solution alternative dans le financement du secteur de l'éducation. Didier Serge Moussanga, ça dépend alors de ce qu'on entend par dire improductif. Si l'enseignement est qualifié de secteur improductif, je veux bien savoir ce que sera le Congo de demain. Quelle couleur sera-t-il? Cela me pousse à comprendre qu'on n'a pas encore compris qu'il y a beaucoup d'investissements qui peuvent être initiés dans le secteur de l'enseignement et arriver ainsi à augmenter la part allouée au financement de l'enseignement en RDC. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de vous joindre à nous. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et je salue l'ensemble des auditeurs qui nous suivent de partout.
Alors, comment on peut arriver dans les différentes interventions dans le secteur de l'enseignement à augmenter la part allouée à ces secteurs pour améliorer, bien sûr, la qualité de l'enseignement et relever ainsi les défis qui se posent dans ces domaines?
Bon, je pense que ce sujet relance en fait un véritable débat sur des visions même globales. Je pense avant même de parler de secteurs en fait de l'éducation, de l'enseignement, nous devons aborder même la problématique en fait de ce budget de manière globale. ce budget a été évalué à plus ou moins, je crois, 9 milliards. Et donc, par rapport à l'année passée, le budget de cette année est en régression, je crois, de 2 ou 3 % d'après, en fait, ce que je suis à travers les médias. Or, en réalité, le budget de ce pays n'a jamais atteint 5 milliards. Lorsqu'on parle des 8, 9 milliards, je pense que, en fait, c'est vraiment de l'auto-satisfaisance. Les gens qui veulent, en fait, qui ont promis qu'en 2015, nous aurons un budget de 20 milliards. C'était à travers les médias, ça a été déclaré. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, et on se retrouve avec un budget, en fait, illusoire, en fait, de 8 milliards ou 9 milliards. En réalité, nous n'avions jamais réalisé 5 milliards. Alors, raison pour laquelle, à chaque fois, quand on évalue le budget, on parle, en fait, d'une réalisation qui varie entre 40, je crois, à 50 %. Donc, pour dire que ce qu'on a toujours présenté comme chiffre, c'est vraiment juste pour du bluff, en fait, c'est pour, je ne sais pas, chercher quand même à justifier la croissance macroéconomique, comme c'est toujours, en fait, leitmotiv à travers les médias et tout ça. Alors, donc pour dire ceci, le budget en question est inférieur. Donc le budget, d'abord, parlons seulement de ce budget national, il est inférieur de 3 fois même. De 3 fois par rapport au budget de Kourouna en cravate. Parce que vous avez suivi à travers les médias les rapports de le Global, qui parlait en fait de, qui nous renseignait de 15 milliards de dollars américains qui s'évadent chaque année. C'est-à-dire 15 milliards qui sont en fait dilapidés par les Kourouna en cravate. Or, si vous prenez les 15 milliards et vous prenez les 3 milliards et demi qu'on mobilise chaque année, ça fait presque 5 fois en fait inférieur au budget vraiment décenté faire fonctionner l'État. Alors, lorsqu'on parle de priorité, on parle même de productivité. Ce budget, en fait, le secteur de l'enseignement est improductif. C'est vrai pour eux, parce que pour eux, l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt direct lié en fait à ce secteur d'enseignement, dans la mesure où leurs enfants ne fréquentent pas les écoles de ce pays. Pour ceux de là, en fait, qui fréquentent les écoles en fait, au niveau du pays, ils sont dans des écoles privées, des écoles qui coûtent énormément cher, que les enfants en fait, de la classe moyenne, même de la classe inférieure, ne peuvent pas même accéder. Notamment, par exemple, nous prenons le lycée français, les lycées, en fait, l'école d'IRPE. Alors, lorsqu'ils disent que c'est pas productif, c'est qu'ils ont bien raison, parce qu'un oligarchie ne voit pas, en fait, l'intérêt direct lié, en fait, à ce secteur. Or, le Parlement qui est censé, en fait, corriger ce genre, en fait, de l'imperfection par rapport, en fait, à la conception même des idées, ce genre-là, on était content aussi, en fait, de leur vendre. Même l'opposition ou la majorité, tout le monde s'unit, tout le monde est unanime par rapport à ce mouvement. C'est raison pour laquelle le budget est réalisé à plus de 70% pour faire fonctionner les institutions, trois institutions de la République qui sont le gouvernement, la présidente, le président de la République et le Parlement. Ils font les calculs sur les monuments, sur même on a prévu dans ce budget aussi, les modalités de sortie. Les indemnités en fait de membres du gouvernement, tout ça, sont ces produits et vous allez comprendre que cela va être réalisé. Que le budget de 15% devient de 29%, comme vous l'avez indiqué, ne sera jamais même à 50% réalisé, parce que l'intérêt n'est pas lié à ce budget, à ce secteur-là d'enseignement. Alors, vous allez comprendre que les 75% qu'on a toujours en fait pris en fait, pour faire fonctionner les trois institutions qu'on devait en fait de préciser ici, seront même en fait doublés ou triplés, raison pour laquelle vous voyez que chaque année, lorsqu'on va faire la révision des comptes dans les débats, vous allez comprendre que les députés fustigent la manière dont en fait le président de la République comme institution et le gouvernement font le dépassement qui va hauteur même jusqu'à 300%. Alors, et on finit, il n'y a rien, parce que ces députés, quelque chose de l'opposition, comme des majorités, se retrouvent, ils règlent, en fait, ils agissent à l'air des monuments, et ça passe. Sans même qu'il y ait même ce que nous avons toujours entendu, que nous avons boycotté les séances, ils n'ont jamais boycotté les séances, ces députés-là, parce que on n'a pas pu, en fait, enlever, par exemple, les salaires des enseignants, ou les salaires des fonctionnaires. Hein? Dans l'ordre, ils vont trouver leur compte que les demandeurs ont été réjugés.
Alors, si on vous suit bien, vous avez évoqué d'abord les faiblesses de la mobilisation de RSS. Vous estimez que le 50% de ces budgets, ça vient de financement extérieur. Et pour vous, on peut corriger toutes ces erreurs dans la mobilisation des RSS en évoquant dernièrement un rapport du conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, qui estimait que 15 milliards de dollars échappaient ainsi au fisc, et si cet argent pourrait être canalisé dans les trésors publics, on peut résoudre cette question. Ça, c'est dans le financement global du budget, et vous avez présenté la faiblesse, bien sûr, même dans l'exécution, avec les trois institutions qui prennent la grande part dans l'exécution, et ça sera même difficile que les 15,29% alloués au secteur de l'éducation soient exécutés vraiment à 100% comme il faut. Alors, vous avez estimé qu'au niveau du Parlement, les députés qui doivent corriger devraient en principe marteler et faire de cela leur cheval de bataille. Mais on rappelle quand même que la deuxième émission d'aujourd'hui consacrée au secteur de l'éducation, on se rappellera que la première émission a été aussi consacrée au fonctionnement de province par rapport au budget alloué, n'est-ce pas? Nous avions déjà évoqué cela. On a beaucoup d'angles qui peuvent être exploités dans cette émission autour du budget d'une manière globale, mais secteur aussi par secteur. Merci beaucoup, Maurice, de nous avoir appelé de Kinshasa, ici dans la capitale. Ernest, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Ernest, bonjour.
Bonjour, monsieur
Jolie. Alors, comment on peut arriver aujourd'hui à renforcer, hein, on voit d'autres pays de l'Afrique subsaharienne atteint 20% dans les financements du secteur de l'éducation, en déclarant aussi la gratuité de l'enseignement pour essayer de combler les vides. Comment on peut arriver à diversifier les interventions pour que le secteur de l'éducation, les budgets alloués puissent atteindre quand même un montant qui puisse permettre à ce secteur de relever les grands défis, Ernest?
Merci beaucoup pour m'assister à ce débat. Je crois que le gouvernement a tort de dire que le secteur de l'enseignement est improductif. Parce que au niveau des statistiques qu'on présente, chaque année, nous avons des statistiques. Moi, je gère dans ce domaine de l'enseignement. Nous avons des statistiques. De l'école maternelle jusqu'à l'université, le gouvernement connaît le nombre des enfants ou les Congolais qui sont à l'école. Si on dit, par exemple, parce qu'aujourd'hui, le Minerval, au niveau de l'enseignement secondaire ou primaire, c'est 100 francs. Mais si le gouvernement se dit, les parents qui supportent 50 000, 100 dollars, ou 5 000 par trimestre, parce que ça dépend de l'option de l'enfant, si cet argent est versé directement au niveau de la caisse nationale, je crois au trésor public, je crois que le gouvernement ne va pas dire que le secteur est improductif. Mais c'est improductif comment? Alors, si nous prenons les effectifs des enfants scolarisés, qui paye les 100 francs. Mais c'est le gouvernement qui a fixé le minimum autour des 100 francs. Ce n'est pas les enseignants. Donc, le secteur n'est pas improductif. Et aujourd'hui, si ils parlent en bon français, ils arrivent à manipuler ces chiffres pour proposer comment gérer le pays. Mais ils ont l'enseignement. Mais si l'enseignement n'est pas correctement organisé, bien géré financièrement, mais c'est quel type de dont ils veulent conforme. Dans les pillages, ici, moi je suis au Bas-Congo, au Congo central, ici, à Matadi précisément. Nous avons tenu des forums les années antérieures pour dire on peut chercher des taxes de payage, un pourcentage qu'on peut allouer à l'enseignement pour soutenir tant soit peu les efforts des parents. Donc il y a des taxes qu'on peut créer, il y a des choses qu'on peut imaginer pour renforcer le secteur de l'enseignement. Mais lorsqu'on prend 15% de budget national distribué à l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, mais ça représente combien? Dans les taux d'infection, on n'aura même pas à dépenser plus de 8%. Donc, c'est là le grand problème. Nous avons besoin de créer dans les taxes concrètes, parce que le pays ne vit pas seulement avec des taxes de surcroît, il y a surenchère ou difficulté de vie. Il y a des choses qu'on peut créer et réfléchir pour dire ce domaine ici, c'est l'appui à l'enseignement. Mais on ne le fait pas. Alors que, comme on dit l'intervenant qui vient avec moi, dans les budgets, on prévoit les énergies de sortie. Mais où, dans quel domaine ils prennent ça? Comment ils trouvent ça d'argent facilement pour dire budgétisons les énergies de sortie, budgétisons les énergies d'entrée pour ceux qui vont venir? Tout ça, c'est un problème de manque de bonne volonté. Si le gouvernement même, on peut effacer ça de gratuité. On peut demander à tout enfant, à tout parent, de payer les 30 000 ou les 20 000 qui vont et qui entrent tout droit dans les trésors publics. Je crois que l'enseignement aura de l'argent. Et c'est pourquoi ils sont en train de compliquer l'existence en nous mettant des manuels qui viennent de très loin, où le gouvernement semble supporter tous ses frais. Dans les 15% de voix, on soutient. l'arrivée des matériels, la diffusion des documents, et en fin de compte, ceux qui bénéficiaient des enseignements n'ont absolument rien. Je pense, moi, je crois qu'on peut revoir cette situation. L'enseignement est productif. Nous ne sommes pas improductifs. C'est le gouvernement qui fixe les frais des 100 francs, comme on dit, les frais scolaires. Si nous pouvons augmenter cet argent-là, 20 000, 30 000 par parent, et que ça va arriver au secteur, au trésor public, là, il y aura beaucoup d'argent qui vont entrer dans les caisses, au lieu de dire que nous sommes improductifs. Nous ne sommes pas improductifs.
Alors Ernest, mais comment on va concilier, parce que vous vous rappellerez bien qu'il y a l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire, mais dans ces conditions, comment d'un côté nous voulons la gratuité et pourrions-nous encore fixer de frais que les parents pourraient payer, qui pourront être déversés dans les trésors publics pour augmenter les recettes dans les secteurs de l'enseignement, n'est-ce pas là, c'est vouloir quelque chose de son contraire, ou soit il ne fallait pas consacrer cela à la gratuité dans la Constitution. Ernest.
Je vous dis hier, Pierrot, c'est cette gratuité. Nous avons des dirigeants qui rêvent, qui risquent trop, qui font de l'aventure parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous n'avez pas d'abord stabilisé le système de financement de ce système éducatif et vous prenez déjà la gratuité. Maintenant, cette gratuité dont on parle, c'est dans quelle province? Dans quelle république? C'est dans des quoi, combien de pourcents des écoles qui bénéficient de la gratuité? Je crois que c'était parti vite en besogne pour faire plaisir aux institutions du monde que nous sommes capables d'aller comme tout d'autres pays dans la gratuité de l'enseignement. Nous, c'est comme ça que nous prenons les décisions sans trop bien mûrir cela. Même la gratuité n'existe que de non. Sinon, il y a des problèmes. Les parents continuent à souffrir. Pourquoi ici à Louosi ça pose problème? À Louosi, les gens ont dit on ne paye pas ça, le gouvernement, l'enseignant ne doit pas avoir des patrons. À la fois parents, à la fois l'État congolais. Donc je crois que c'était mal vu, mal pensé, ça existe partout, mais ils n'ont pas envoyé les gens là-bas pour aller étudier. Comment le Rwanda, par exemple, assure la gratuité de l'enseignement et comment on arrive à financer ce secteur de l'enseignement? C'est ça un peu la folie de grandeur de nos dirigeants.
Merci beaucoup Ernest. Vous estimez qu'aujourd'hui il est difficile de parler de la gratuité. Vous avez évoqué le 100 francs fixé par l'État comme minerval et vous estimez que cela ne peut pas résoudre la question aujourd'hui. Ce qui fait que le secteur n'a pas beaucoup de recettes, c'est l'État qui a fixé cela. Mais quant à la problématique de la gratuité, vous dites que c'est difficile aujourd'hui parce que les parents continuent à suppléer sur les besoins des enseignants. Mais si tout cet argent pourrait être canalisé dans les trésors publics, ça pouvait combler bien sûr au financement du secteur. Mais vous avez estimé qu'au-delà des péages, tout ce qui a été instauré, c'était aussi possible d'avoir des taxes qui pouvaient financer le secteur de l'enseignement, comme le gouvernement dans le budget prévoit les indemnités de sortie. Cet argent pourra venir d'où? Parce qu'il n'y a pas une recette sur les indemnités. Ça pouvait être la même manière qu'on pouvait raisonner pour créer le financement du secteur de l'éducation. Merci beaucoup Ernest et Maître Adrien. Vous êtes à Kananga. Christian Alvini Kadima Chitumbi nous a écrit, il dit ceci, vous imaginez, moi je suis chargé de la discipline au lycée Mwanjabi en Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental. Je touche 98 200 francs congolais comme salaire et tant que les salaires pouvaient être aussi à 103 000 francs, mais la banque me retient plus de 5 000 francs congolais comme frais de retenue de compte chaque mois, ce qui ne me permet pas de couvrir le besoin en loyer, en transport. Mais si on pouvait diversifier le financement du secteur de l'éducation, je pourrais arriver, par exemple, à 500 000 francs congolais. Ça pourrait me permettre de faire face aux problèmes que j'ai. Alain Bokota, qui nous a écrit des Mandaka, dit ceci, le secteur de l'enseignement n'est pas improductif comme les autres le pensent. Et les gens qui pensent que le secteur de l'enseignement est improductif oublient de quelle manière on pouvait bien l'organiser. La GECAMINE s'occupe des mines, l'enseignement est là aussi pour produire des hommes du savoir qui vont répondre aux besoins de la nation dans tous les secteurs. Alors, c'est tout simplement de multiplier des capacités et des initiatives. On peut arriver à financer les secteurs de l'enseignement sans pour autant se plaindre des 15,29% alloués dans notre budget. Il y a par exemple Mika Boambo qui dit ceci, enseigne les droits, éducation civique et morale, la psychologie, pas des salaires de NP soi-disant. Si on me dit la gratuité de l'enseignement, son importance, ça me fera quoi? Un député qui sort chaque fois à la plénière touche plus de 5 000 $, d'autant plus que tous n'assistent pas à des plénières. Alors il faudrait qu'on puisse penser à augmenter le budget alloué au secteur de l'enseignement. Régis Katoala, qui nous a écrit de Kisangani, dit ceci: l'enseignement est le socle du développement d'une nation. Il est anormal qu'on puisse minimiser ce secteur en allouant un budget inférieur à 20%. Si on pourrait fournir beaucoup d'efforts pour aller au-delà, je crois que la question pourrait être résolue. Merci aux uns et aux autres. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute, comment arriver à diversifier les sources de financement pour renforcer les budgets dans le secteur de l'éducation?
Oui, merci Pierrot pour la question que vous me posez. D'entrée de jeu, je commence par saluer et féliciter d'abord les efforts fournis par les gouvernements congolais, parce que nous ne devrons pas être là pour commencer à critiquer, même là où vous êtes conscient qu'il y a quand même un effort fourni, parce que je vous renvoie dans des années 90-2000, vous allez vous rendre compte que le budget qui était alloué au secteur d'enseignement était vraiment insignifiant, mais au jour d'aujourd'hui, lorsque nous atteignons déjà 15%, je pense qu'il y a des quoi à féliciter le gouvernement et lui demander de fournir beaucoup d'efforts pour essayer un peu d'améliorer plus. Deuxièmement, Pierrot, je pense que pour répondre maintenant à la question, il faut d'abord se poser la question de savoir si réellement nous assistons à une gratuité de l'enseignement primaire. Et moi, j'ai toujours dit que cette gratuité-là n'est que sur papier. En réalité, il y a toujours des mécanismes initié à gauche, à droite, par ceux-là qui nous gèrent, pour que le parent paye d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'est pas à la gratuité ici. Parce que je vous donne un exemple. Nous autres ici, nous avons vraiment des enfants dans tous les réseaux kimbanguistes, les réseaux catholiques, les réseaux protestants, les réseaux officiels, même privés. Donc, vous allez vous rendre compte que le comportement est toujours le même. On vous fixe les taux de Minerval, certes, mais il y a aussi certaines pratiques qui n'existent nulle part et les parents sont toujours appelés à donner de l'argent et cet argent-là va où, je ne sais pas. Maintenant, la question principale, Pierrot, est celle de savoir est-ce qu'on dit que le secteur d'enseignement est improductif. À mon humble avis, j'ai dit non, comme mes prédécesseurs. Je pense que ce secteur-là est productif, mais ce qui manque à ce secteur, c'est une certaine organisation. C'est comme ça que moi, je propose si on peut ouvrir un compte dans chaque province pour permettre aux parents de commencer à payer cet argent-là par le biais de ces comptes bancaires, au lieu que nous continuions avec cette pratique archaïque. On donne de l'argent aux individus, que ces individus-là empochent cet argent, sont obligés d'abord de faire leurs besoins privés, et par après, ils ne font aucun rapport, et les autorités chargées de l'enseignement ne font aucun suivi pour se rendre compte, parce que même l'effectif est un problème. Il y a des stratégies malheureuses mises en place, il y a ceux-là qui cachent le vrai effectif, et les autres réduire, et c'est donc en partant de tout ça, je pense que la solution commence par créer d'abord un compte pour qu'on commence à payer. Deuxièmement, il serait mieux qu'on mette une commission de suivi, et cette commission-là aura comme tâche de commencer à circuler dans chaque province, et dans chaque ville, dans chaque territoire, pour essayer d'abord de maîtriser l'effectif des élèves. C'est très très important, parce que lorsque on aura à maîtriser l'effectif, on commencera maintenant à faire le calcul pour dire que non, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet effectif-là. Donc voilà, Pierrot,
ce que j'avais comme recommandation à faire.
Mais si je peux vous garder un peu, peut-être une minute, maître Adrien, vous estimez que pour les écoles publiques, par exemple, les écoles conventionnées, il y a des parents qui continuent, les écoles publiques, il y a des parents qui continuent à intervenir avec des frais qui sont exigés sous diverses formes pour contourner la gratuité, ce qui rend aujourd'hui difficile la perception de la gratuité de l'enseignement. Vous avez évoqué le cas de la ville de Kananga, par exemple. Mais vous estimez qu'il y a les interventions de parents, les frais que les parents payent dans ces écoles publiques et ces autres écoles qui vivent de la subvention de l'État, pouvaient être canalisés dans un compte bancaire, ce qui pouvait permettre à ce que directement, indirectement, les parents puissent financer les secteurs de l'enseignement. C'est pour dire là que au niveau de l'État, on risque de se résigner à mettre à rien, mais de considérer que les parents peuvent aussi d'une manière ou d'une autre être des partenaires dans le financement public du secteur de l'enseignement.
Oui, alors parce que c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Je commence par vous dire que gratuité n'est que sur le papier, mais en réalité, il n'y a pas de gratuité. Et comme le gouvernement dit que c'est un secteur improductif et que nous, sur le plan citoyen, le contraire, c'est comme ça que nous avions proposé cette initiative. Parce que s'il y avait gratuité en ce moment-là, on pouvait donner raison au gouvernement que oui, c'est un secteur improductif. Parce que comment pouvez-vous chercher que ce secteur-là puisse produire à partir du moment où il y a gratuité? Mais il n'y a pas gratuité. Donc il faut chercher maintenant à canaliser le fait que les parents continuent à payer comme Minerval et autres stratégies. Parce que si il y a un compte bancaire, Pierrot, je vous assure, il n'y aura pas donc de manœuvre pour dire que non, à gauche, à droite, il y a ça, il y a quelque chose qui pourra encore se passer.
Merci beaucoup, maître Adrien. Vous estimez que par le fait que les gens ne vivent pas, n'est pas la gratuité et que les parents continuent à intervenir, autant mieux canaliser ces interventions des parents dans un compte bancaire et transformer en recettes publiques pour financer les secteurs d'enseignement, parce que vous estimez comme les autres que c'est pas un secteur improductif dès lors qu'il y a les parents qui continuent encore à intervenir. Merci beaucoup, maître Adrien Trésor. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous rappelons encore à nos auditeurs qui est dans la programmation du budget des actions du gouvernement 2016, il est prévu 15,9% pour l'ensemble des secteurs de l'enseignement général. Pour les groupes thématiques droits de l'homme du centre Carter, ces montants destinés à l'enseignement restent largement inférieurs à la moyenne des 20% constatée dans les pays d'Afrique subsaharienne ayant introduit la gratuité de l'enseignement. Le même groupe thématique fustige la justification du gouvernement qui soutient que le secteur de l'enseignement est un productif, raison qui explique le faible taux de cette part allouée. Alors certains observateurs estiment que les frais liés à des diverses activités scolaires imposées aux parents devraient être mobilisées comme des recettes publiques pour financer les secteurs de l'enseignement. Quel est votre avis? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous avons un Trésor qui est ici à Kinshasa. Merci de vous être joint à nous. Bonjour, Trésor.
Oui, bonjour, c'est Maître Trésor Likova.
On vous écoute.
Bien, merci. 15,29% du budget de l'enseignement, c'est insignifiant, je l'ai dit dans mon message, lui, tout à l'heure. Mais, s'agissant des frais que les parents payent pour certaines activités scolaires, je pense qu'il n'est pas important ou prudent de les transformer en recettes publiques, parce que en les faisant, on exposera encore davantage les parents à des paiements indus. Puisqu'en ce moment-là, on aura tendance à créer des taxes et autres droits inutiles que les parents seront dans l'obligation de supporter sous prétexte qu'on veut faire de l'enseignement un secteur productif. L'enseignement n'a pas vocation de produire les recettes publiques. L'enseignement a vocation de produire les hommes et femmes capables de produire les recettes publiques dans d'autres domaines de la vie nationale.
Mmh.
Aujourd'hui, si on va chercher à faire de l'enseignement un secteur productif, où il y a les impôts, les taxes, les redevances et autres droits à supporter par les parents, moi je pense qu'on serait en train de vouloir la disparition pure et simple de l'enseignement parce que depuis belle lurette, nous sommes en train de déplorer la qualité, la détérioration du niveau de l'enseignement dans notre pays. La qualité de l'enseignement laisse à désirer. Et moi, je pense que ceux qui ont dit que l'enseignement est un secteur improductif ont tout simplement mal réfléchi parce que aujourd'hui, l'enseignement, comme j'ai dit, si on doit les qualifier de cette façon-là, c'est comme si on voudrait faire de l'État un appareil où la machine a été déjà bloquée dès la fabrication. Puisque l'enseignement, c'est ce moteur-là qui permet à l'État de bien fonctionner. Et ces moteurs doivent fonctionner pour essayer d'entretenir la source. L'enseignement, c'est la source même de l'émergence et du développement d'un État. Ce qui est produit dans d'autres domaines doit permettre à l'enseignement de bien fonctionner, d'assurer une bonne éducation aux enfants et d'avoir les moyens nécessaires pour la survie des enseignants et d'autres personnels qui contribuent à l'avancement de l'éducation des enfants au niveau du pays. Alors moi, je proposerais que les amis du centre Carter puissent, à la prochaine occasion, mener une enquête pour voir si seulement si le budget alloué depuis des années passées à l'enseignement a été vraiment exécuté de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, nous fustigeons 15,29%, nous disons que c'est irréaliste, pas beaucoup, mais est-ce que ce budget-là, malgré 15,29%, sera bel et bien exécuté de bonne foi? Ça, c'est la question que je pose à tout et chacun.
Et Trésor, vous avez évoqué ces concepts, vous estimez qu'il faut renforcer la mobilisation des recettes dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, et que ces recettes puissent servir au financement de l'éducation et ne pas considérer le secteur de l'éducation lui-même comme créateur de richesses, mais et puis on ne peut pas aujourd'hui transformer les différentes interventions de parents, les impositions quelconques ou même créer d'autres taxes pour financer les secteurs et augmenter les budgets. Mais vous venez d'évoquer tout à l'heure ce qui a été dit par Maurice en début d'émission, que le problème, ce n'est pas aujourd'hui qu'on ait 15,29%, mais c'est aussi les taux d'exécution de ces pourcentages alloués au secteur de l'éducation. Tout à l'heure, Maître Adrien venait de féliciter les efforts du gouvernement en estimant qu'en comparant le budget de l'État depuis les années 2000, vous vous rendrez compte qu'il y a eu quand même des avancées significatives. On est parti de 9% en 2010 jusqu'à près de 16% en 2013. C'est vrai que le budget 2016 connaît une baisse globale de près de 2%. C'est là a eu aussi l'implication sur les différents secteurs. Mais vous estimez qu'il serait mieux que le centre Carter, par exemple, les groupes thématiques des droits de l'homme de ces centres puissent aussi mener des enquêtes pour arriver à avoir des idées claires sur les taux d'exécution de ces budgets alloués au secteur de l'éducation. Quand même il pourrait être des 15%, autant mieux l'exécuter pour résoudre tant soit peu les questions qui se posent dans les secteurs de l'éducation. Merci beaucoup, Maître Trésor, de nous avoir appelé de Kinshasa. Fiston Bakajika dit ceci, l'homme ne peut donner que le meilleur de lui-même. Lorsqu'il se retrouve, l'introduction de la gratuité de l'enseignement ne garantit pas la survie du système lui-même avec tout le problème qui se pose, que ce soit dans la gestion des enseignants et autres choses. Alors, il faudrait aujourd'hui que les recettes qui sont gérées dans les différents autres secteurs puissent être canalisées dans les trésors publics pour permettre à ce que le développement du secteur de l'enseignement
d'enseignement soit renforcé. Skof Mumpanya dit ceci, ça déplore, l'enseignement n'est pas productif comme beaucoup le pensent, mais les problèmes aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les objectifs sur lesquels nous travaillons et qui puissent nous arriver à mobiliser autant de recettes pour soutenir le secteur de l'enseignement. Benza Vainqueur dit ceci avec 15,9% prévu pour l'ensemble du secteur de l'enseignement général. Moi, je crois que c'est insuffisant, mais il faudrait quand même fournir beaucoup d'efforts, sinon quand ces secteurs vont rester sous-financés, c'est le terme qu'il a utilisé, et c'est la jeunesse qui sera aussi exposée parce qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un enseignement de qualité, même de toute autre chose qui concourt, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est le point de vue aussi partagé par Clément Kayembe qui a déposé son message sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Et Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Thérault et la musique, et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Par rapport à la thématique, monsieur Thérault, moi j'estime que c'est un faux débat. Si on parle en termes de productivité de l'enseignement, moi je comprends absolument rien. Il y a controverse entre le prescrit de la Constitution et la productivité de l'enseignement. Puisqu'à son article 46, il est prévu la gratuité de l'enseignement. Alors moi je me pose une question, comment est-ce qu'on peut encore rendre cet enseignement productif? Il y a beaucoup d'ingrédients, à l'hypothèse où on voudrait rendre productif cet enseignement, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup de préalables, de paramètres qui entrent en ligne de compte. Parce que tout d'abord, les parents ne sont pas bien payés, il n'y a pas d'emploi. Avec le taux de minimum actuel, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants sont encore au chômage, ils ne se rendent pas à l'école. Et si maintenant on veut rendre productif cet enseignement, on se sacrifie la jeunesse. Or, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Alors moi, je ne comprends absolument rien. Et quand de même certains parents travaillent, quel est le taux de salaire? Le salaire n'est pas décent. Monsieur Pierrot, vous comprendrez avec moi. Un Congolais vous touche la valeur de 100 dollars. Il loue une maison à 50 dollars. Et comment est-ce qu'il va mener ses enfants à l'école? Hormis cela, monsieur Pierrot, où vont les taxes, les impôts dans les secteurs miniers? Puisque nous savons que l'enseignement fonctionne sur base de l'argent des contribuables congolais. Où va cet argent? Et puis, si nous voyons bien, dans les 15% de 2029 alloués à l'enseignement, 1% seulement de 2002 est alloué à l'enseignement primaire et primaire. Si 1% de 2002 est à l'enseignement secondaire et technique, et 2,6 secondaire là-bas à l'enseignement universitaire, et 11,57% alloué à d'autres affaires. Quelles sont ces affaires-là auxquelles ces 11% sont alloués? Et si nous suivons très bien, M. Pierrot, au moment actuel, au moment d'aujourd'hui, combien d'infrastructures scolaires que l'État a construites et que l'État congolais a mises à la disposition du peuple congolais? Parce que moi, j'estime que l'État congolais a même déjà démissionné de ses prérogatives. Et ce n'est pas l'enseignement qui est dans les mains des privés. Si l'État congolais aujourd'hui veut se comparer au privé, pourquoi bon rester avec ce secteur dans ses attributions? Il faut mieux privatiser le tout. Et à ce moment-là, ça deviendra une question de sacrifier la population. Monsieur Pierrot, je ne comprends absolument rien. Au moment d'aujourd'hui, l'État congolais, on ne devait pas se baser sur la productivité de l'enseignement, on devait peut-être se baser à la qualité d'enseignement, M. Pierrot. Aujourd'hui, prenez un licencié en droit, prenez un licencié en sciences sociales, posez-lui une dictée. Combien de fautes d'orthographe que vous avez tirées de cette dictée-là? Je me rappelle très bien. Au moment où on a organisé les textes au niveau du barreau, il y a 2 ans, ils ont instauré le système. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, maître.
Oui, ils ont instauré le système de dictée. Il y a même eu des candidats qui ont eu 0 sur 10. Moi, j'estime que l'État congolais doit prendre ses prérogatives en main et prendre le premier train de corps. Pas question de productivité de l'enseignement. Combien d'enfants que nous trouvons sur la rue? Combien d'enfants que nous trouvons sur la rue? Combien de femmes sont analphabètes? Ça, c'est ça même le rôle de l'État.
Mais maître Sonville, vous estimez que le rôle, vous estimez, si vous pouvez le permettre, vous estimez qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas rendre les secteurs productifs dans les termes de mobilisation, de recettes, sinon ça risque de sacrifier. Mais alors, vous estimez que le grand débat aujourd'hui doit tourner autour de la qualité de l'enseignement, mais on ne peut pas avoir une qualité, un enseignement des qualités s'il n'y a pas de moyens conséquents qui sont mis à contribution. Mais dès lors qu'on se rend compte que d'une manière globale, dans la mobilisation des recettes, on ne peut pas arriver à aller au-delà de 20% aujourd'hui, par exemple, faudrait-il créer d'autres mécanismes pour permettre à ce que le secteur soit financé d'une manière qui permette aussi de s'investir dans l'amélioration de la qualité, maître Sonville?
C'est la question que je pose, M. Pierrot. Où vont toutes les taxes que nous payons? Où vont tous les impôts que nous payons? Où vont les amendes transactionnelles que nous payons au niveau de la police, au niveau du parquet, au niveau des tribunaux? Où vont les différentes recettes que nous payons au niveau de la douane? Mais ces recettes-là doivent être mobilisées pour affecter une grande part au niveau de la télévision. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas demander à un parent qui est sous-payé, à un parent qui est chômeur, qui vit au taux du jour, pour qu'on commence encore à rendre productif cet empire. Là, c'est vouloir une chose à son contraire.
Oui, au contraire, voilà.
L'enseignement doit être gratuit.
Gratuit, voilà. Merci beaucoup, maître.
Je ne comprends absolument rien.
Merci beaucoup, maître. Vous estimez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le débat en termes de rendre les secteurs de l'enseignement productifs d'une manière à considérer les recettes de ces secteurs qui doivent constituer aujourd'hui des recettes publiques, même si le parent pourrait intervenir. Sinon, ça risque aussi d'être un lourd fardeau sur les épaules de parents qui ont déjà beaucoup de difficultés, même à faire scolariser ses enfants. Merci beaucoup, maître Sonville. Mais en évoquant la question de recettes publiques, des canalisations de recettes, vous avez rejoint Maurice, qui est intervenant au début d'émission, en estimant que quand il y a eu des rapports qui estiment plus de 10 milliards de dollars échapperaient au trésor public, autant mieux mettre des mécanismes de mobilisation, de canalisation de ces recettes. Et comme ça peut permettre à ces confinances d'une manière plus costaud le secteur de l'enseignement. Laurent, vous êtes à Kikwit, dans la province de Kwilu. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà. Comment renforcer les financements du secteur de l'enseignement aujourd'hui pour lui permettre vraiment de relever les défis?
Et je voudrais partir d'un argument donné par un des maîtres décesseurs qui a parlé d'ingrédients. Je crois que les ingrédients, il y en a. Si on a la bonne volonté, on peut, sans trop escompter les parents, avoir de l'argent. Je prends un secteur de l'EPFP avec l'organisation des examens d'État.
Mmh.
Je vais dans les exemples. L'exercice 2014-2015, je prends le Bandundu 2, l'actuel Kwilu, a présenté aux examens d'État 45 000 élèves finalistes. Et dans le pourcentage, dans ce qu'il payait, chaque élève était censé laisser à la province 3500 francs. Et quand je prends 3500 francs fois 45 000, ça me donne 157 500 000 francs, soit 169 000 dollars, 354. Si cet argent-là est bien canalisé, si cet argent-là ne va pas dans la poche d'un individu au nom de la province, et si on prend tous les Bandundu, or jusqu'à là, j'étais seulement dans le Kwilu.
Oui.
Si on prend tous les Bandundu, et après on va sur toute l'étendue de la République, combien d'argent le secteur de l'EPFP ne peut-il pas apporter dans les recettes de l'État? Voilà mon raisonnement, c'est celui-là.
Merci beaucoup, Laurent, parce que vous avez évoqué les prêts payés pour la session des examens d'État. C'est 3500, c'est la moyenne. Quand vous avez pris pour le Bandundu, on peut prendre aussi d'autres provinces, ici à Kinshasa. C'est la même chose quand on peut prendre aussi la participation à l'ENAFEP. Et vous estimez qu'avec ces frais, si c'est canalisé dans les trésors publics, parce que l'argent est perçu par la province avec tout ce qu'il y a comme émiettement dans les différentes caisses, si cela est canalisé, c'est que ça veut dire que le secteur peut produire beaucoup d'argent qui puisse lui permettre de se financer. Merci beaucoup, Laurent, pour cet exemple plus concret. Vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. Nous avons John Pangui qui est enseignant ici à Kinshasa. Merci, John, de vous être joint à nous. Pensez-vous qu'aujourd'hui on peut avoir d'autres mécanismes au niveau des écoles qui puissent permettre à ce que les différentes recettes réalisées puissent être transformées en recettes publiques pour financer les secteurs de l'enseignement? John, bonjour.
Oui, Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis en CAD et je sais l'après-midi. Je remercie, je salue tous les auditeurs qui ont intervenu pour cette question très sensible. Bon, je sais, bref, hein, on a dit que l'enseignement est un secteur improductif, ça c'est vrai. Alors, comment est-ce que le quoi, la préventure produit combien? La présidence, le parlement. Bon, je prends des exemples concrets. Les avocats, les frais de mémoire, ce frais vaut beaucoup. La chômage, ça part où? Et puis, la publication des frais de départ à Vodacom, cet argent va où? Dans la caisse de Vodacom ou ailleurs. Le fait de participation des enfants et la paix à notre primaire, et puis le fait de participation aux examens d'État, tout ces frais, là-bas vont où? Mais comment est-ce qu'on a dit que voilà, l'enseignement ne produit rien? Actuellement, tous les bureaux, toutes les écoles fonctionnent avec l'argent des parents, même les bureaux gestionnaires. Moi, je suis délégué des enseignants. Je connais tous les bureaux. Je peux vous citer tous ces bureaux-là qui bouffent l'argent des parents inutilement. Les parents vraiment sont fatigués. Moi, je suis dans une école catholique à Kessens, mais c'est quand même malgré. Quand on chasse ces enfants-là, nous sommes des mercenaires, nous n'aimons pas notre pays. Que l'État puisse faire ceci. Si l'État n'a pas de moyens pour supporter l'enseignement, c'est qu'il démissionne tous. Et parce que nous sommes en train de former, de couvrir des enfants. Vraiment, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Vraiment, je suis vraiment pressé. Je passe à la prochaine.
Merci beaucoup, John. Vous êtes enseignant. Vous avez posé des questions concrètes. Vous dites qu'on ne peut pas parler en termes de productivité aujourd'hui parce qu'on ne peut pas nous dire la primature, la présence du Parlement qui consomme le gros du budget, comme le disait tout à l'heure Maurice, ils produisent combien. Mais il y a aussi des frais qui doivent être en principe justifiés et canalisés. Je vois des écoles où, en partie des cinquièmes, les enfants qui payent des frais à administratifs qui s'élèvent, par exemple, dans d'autres écoles à 18 000 francs, vous estimez qu'autant d'argent, ça va où? Tout ce qui est perçu va où? Il faudrait quand même les justifier. Mais parce que vous avez évoqué les frais de consultation pour les résultats de l'examen d'État aujourd'hui avec l'opérateur des téléphonies cellulaires, je crois bien nous avions reçu le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et éducation à la citoyenneté qui avait pu donner des explications sur les antennes de Radio Gapi en estimant qu'il y a le frais qui reviennent à la société, ce qui va bien sûr au trésor public, mais aussi les actions qui ont été menées par cette société à l'initiative du ministère, que ce soit les centres de correction, que ce soit la dotation des véhicules. Voilà les explications qui ont été données pour permettre à ce que la question puisse être quand même élucidée un peu rapidement avant d'écouter d'autres auditeurs. Mais vous estimez qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités comme les autres l'ont pensé pour renforcer vraiment l'investissement dans ce secteur. Nous avons un auditeur qui nous appelle de Kisangani, bien sûr, c'est dans la province de la Chopo, je crois bien. Hein, c'est vraiment que c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois bien. C'est ça, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous êtes avec nous de Kisangani? Voilà, dommage qu'on a des petits soucis des lignes avec notre auditeur qui il s'appelle bien Vermox, je crois bien, c'est ça vraiment son prénom. Il est à Kisangani, mais dommage qu'il n'est pas avec nous en ce moment en ligne. Apparemment, il est distrait sur sa ligne. Monsieur, on pourra peut-être le retrouver après quelques secondes, le temps d'exploiter encore ce message déposé sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Michel Lapi, qui nous a écrit depuis Durba, dans les territoires de Ouachia, dit ceci, les 15,29% du budget pour les secteurs de l'enseignement est insignifiant, vu la potentialité qui est la RDC, les potentialités que la RDC régorge. Nous avons tout ce qu'on peut exploiter et d'une manière rationnelle pour augmenter les budgets alloués à ces secteurs. Prince Katumba dit ceci, il y a la politique du gouvernement s'est traduit dans l'élaboration du budget, surtout le montant alloué au secteur de l'enseignement. Je préfère que ce soit encore plus augmenté, parce qu'en augmentant ce montant, cela permet aussi au secteur d'être amélioré. Il faudrait que le gouvernement alloue un montant conséquent qui permette aussi que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Et Charles Pégu dit ceci, le pays comme le nôtre, avec autant des potentialités. Il suffit tout simplement d'avoir de la volonté dans la gestion rationnelle des ressources ainsi que l'exploitation de toutes les potentialités, si possible, de la RDC. On peut arriver à financer le secteur de l'enseignement au-delà même de 20%. Fabrice Saint-Pierre Singa dit ceci, ceux qui ont été bien formés permettent aujourd'hui sans raison de pouvoir déformer les pauvres petits garçons et filles, parce qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont nés après eux, ceux qui ont bénéficié des bourses d'études hier pour aller étudier à l'étranger, avoir de meilleures conditions d'études, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sacrifient la jeunesse, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'élever le niveau de financement du secteur de l'éducation, alors que ceux-mêmes qui ont été bien formés hier et aujourd'hui, qui sont en poste des responsabilités, ont assez de moyens et permettent par le même budget de l'État des salaires qui leur permettent d'être à l'abri des soucis et des problèmes. Trésor Mbalois de Bukavu dit ceci, c'est l'expression d'une politique budgétaire qui est souvent, on peut dire, dirigée par la conception du Fonds monétaire international. Et quand on est sous perfusion des institutions internationales, sera difficile d'avoir une capacité de mobilisation des recettes au-delà même et pouvoir affecter ces recettes selon le vrai besoin de la population. Merci beaucoup aux uns aux autres. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Alors, comment arriver aujourd'hui à diversifier le financement du secteur de l'éducation pour permettre à ce que les budgets répondent vraiment aux vrais problèmes et aux besoins réels qui se posent dans ces secteurs? On vous écoute, Docteur Richard, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde qui a parlé. Félicitations à tous ceux qui ont parlé du budget, du tel pourcentage, etc. Moi, je vois deux choses. La première chose, c'est le budget de l'État. Pour booster le fonctionnement du système d'enseignement. La deuxième chose, c'est que les systèmes d'enseignement peuvent produire de l'argent. Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Vous savez que M. Van Braun, M. Apollo, c'est à l'âge de 16-17 ans qu'il avait fabriqué ou créé V1, V2, V. C'est à partir de l'Allemagne qu'on bombardait la Grande-Bretagne. Ce sont les précurseurs des missiles d'aujourd'hui. Donc, les écoles peuvent, au niveau secondaire, modifier les procédés de fabrication, de traitement, de distillation, ou alors d'analyse de X, Y produits et avoir de brevets à ce niveau-là déjà. Alors, au niveau des universités aussi, c'est honteux de voir le ministre de l'enseignement primaire et secondaire parler des diplômés de biochimie qui ne savent pas, qui contemplent avec le ministre les mangues pourries sous les manguiers, qui contemplent avec le ministre lorsqu'on fait la sauce saine que Koudiangui là nous présente dans ses émissions, voir l'indicat, donc les noix palmistes, être jetées. C'est honteux ça. C'est honteux. C'est à ce niveau que les écoles peuvent produire, c'est-à-dire produire de brevets. L'université, nos universités ont aujourd'hui 55 ou 60 ans d'âge. Nous avons combien de brevets? C'est à partir de brevets qu'on peut produire de façon interne. C'est ça. Moi, je vois ça. Et ça, tout le monde ne regarde pas. On est fier de voir les mangues pourries sous les manguiers, on est fier de voir les graines qu'on appelle indica être jetées dans la poubelle, ainsi que les chiffons émanant du traitement de noix de palme. On est fier de ça. C'est-à-dire, on est limité. Je salue madame qui parle souvent au parti des intérêts, qui disait au procès de la Bana, madame Joséphine, de copier ce qu'il a vu là-bas. Et nous voulons fabriquer des nouvelles écoles, fabriquer des nouvelles universités et fabriquer des chômeurs. Le ministre va avoir honte. Ça, c'est formidable, ça.
Vous estimez qu'aujourd'hui, le programme au niveau de l'enseignement secondaire, l'enseignement technique au niveau de l'université devait être consacré à la création, à l'invention. Cela veut dire que les écoles pouvaient financer le secteur de l'enseignement en mettant en place aujourd'hui des innovations qui pouvaient être exportées.
Le contenu des enseignements. Et personne n'y pense.
Voilà, et c'est là maintenant qu'on peut produire des brevets, on peut inventer des choses qui peuvent être commercialisées et financer le secteur de l'enseignement. Merci beaucoup, Dr. Richard, de ce point de vue. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons Raphaël Omenadidi qui dit ceci, c'est pas une bonne analyse de considérer que le secteur de l'enseignement ne peut pas produire des richesses. Alors, pour nous, nous pensons que ce qui touche des millions de dollars aujourd'hui au niveau des institutions, ils produisent combien? Est-ce qu'on peut à financer les secteurs, exécuter les budgets en forme de, en termes de production, en termes de productivité du secteur, non. Les députés produisent combien et tous les autres qui consomment la part, la grande part du budget de l'État, ils produisent combien en termes de recettes. Voilà. Il y a aussi William Ilunga qui est l'USA, qui est à Kamina dans la province du Olomami. Il dit à l'impossible, nul n'est tenu. Ce qui est vrai, l'État et doit fournir beaucoup d'efforts pour arriver vraiment à diversifier les recettes du trésor public et surtout les canaliser plutôt pour arriver vraiment à financer de manière qu'il faut les secteurs de l'enseignement. C'est le même point de vue partagé par Antoine, Alphonse, Mambo et les autres qui ont déposé le message sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs comme Jonathan Mouombo qui est étudiant à l'Université de Goma et Jean-Louis Roupéan des Béni au Nord Kivu. On va terminer avec vous, Raphaël, vous êtes à Guémina. Vous avez suivi les uns et les autres, Raphaël, votre point de vue par rapport au financement du secteur de l'éducation. Qu'est-ce qui doit être fait pour booster, bien sûr, ces financements et permettre à améliorer la qualité de ces secteurs? On vous écoute, Raphaël, rapidement.
Oui, alors, je remercie d'abord les journalistes d'avoir accordé la parole sur les antennes de la Radio Capi. Mais néanmoins, les enseignements, c'est un secteur qui est. Moi, je vais, monsieur Gleis.
Oui, allez-y rapidement.
C'est un secteur clé qui continue à générer l'argent. Nous avons au moins 3 000 Congolais qui auraient été chaque mois dans les salaires des enseignants. C'est des 3 000 Congolais et nous ne connaissons jamais la destination de cet argent. Nous avons les 12 000 francs congolais qu'on paye, on reçoit auprès des enfants du fait de l'État chaque année, alors chaque élève. Vous prenez le nombre des enfants divisé par 2 500. Ce sont les frais, les secteurs des jeunes. Nous avons encore les 100 francs congolais que les Yahéens Côte-Badé qui avaient dit, un 100 francs multiplié par le nombre d'élèves qu'on perçoit. Tout cet argent, quand on partit, on les met ensemble, ça va donner quelque chose pour que l'enseignant puisse aussi avoir quelque chose. Chaque année, l'enveloppe de l'enseignement, chaque année, ne remonte à rien. Et au bout, on est venu dire que notre projet n'a rien remonté, oui. Et la qualité de l'enseignement.
Comment on va remonter la qualité de l'enseignement? Ça va être impossible. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Vous estimez. Oui, voilà. Vous estimez qu'il y a beaucoup d'argent. Vous avez parlé des 12 500 francs congolais. Les frais de l'État, je ne sais pas, à Guémena, il y a les frais administratifs qui sont payés dans les écoles, les 100 francs qui sont payés, tout ça. Si ça pourrait être multiplié au nombre d'élèves, ça peut résoudre la question du financement du secteur de l'enseignement. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant, l'échange de ces jours. Merci à toutes les groupes qui nous aident à produire cette émission, mise en onde par Eric Sidiakala, Julie Fezabongonda, et c'est au standard et à la réalisation Pierrot et la Mégie. Vous la présentez sous la supervision de Martin Seboujango. On se retrouve demain matin pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Ça sera bien sûr à 11h03, heure de Kinshasa. Au revoir.